plaisir. Ravi de vous retrouver pour ce premier atelier Histoire de l'art. Vous savez qu'il y en aura deux autres après. Le suivant sera sur des questions touchant à l'art de la céramique. Et le dernier concernera des questions touchant à l'art moderne, mais plutôt du milieu du XXe siècle, grosso modo. Mais nous commençons, vous savez, ce premier atelier avec une thématique concernant la gravure et les graveurs, un thème qu'on avait déjà abordé, d'ailleurs, il y a quelques années, dans un atelier, il y a des siècles, quand on a commencé nos ateliers, hein, on avait fait un atelier qui concerne les arts graphiques, au sens l'arme du terme, et vous vous rappelez sans doute, on avait, enfin pour ceux qui y étaient, hein, on avait fait une séance sur les questions touchant à la gravure, mais vu surtout par le biais de la technique. Donc on reparlera un peu technique éventuellement, mais je voulais surtout peut-être que dans ces ateliers, on parle graveur. Alors bien sûr, on va voir la manière dont on fait les gravures, mais on va surtout essayer de voir quelles sont les grandes personnalités qui ont pu se distinguer autour de cette question de la gravure. La gravure qui n'est pas un art très... très, très populaire finalement en Occident. Hein. Vous savez, dans l'art occidental, la gravure, elle est considérée de manière un peu, comment dire, secondaire. Pour quelle raison d'ailleurs, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que peut-être la gravure est moins bien considérée que la peinture?
Parce qu'il y a beaucoup de reproductions.
Voilà, c'est ça. C'est pas un art unique. Une peinture, une fois faite, ben, il y en a une, puis il n'y en a pas deux. Si même on copie une peinture, ben, elle n'est jamais tout à fait pareille pour des raisons évidentes. Une gravure, puisqu'il y a à la base une plaque, une pierre, une matrice, si vous voulez, unique, ben forcément, c'est un art de la reproduction. Et ça, en Occident, c'est quelque chose qui passe plus ou moins bien, si j'ose dire. Ce n'est pas partout pareil. Hein. En Extrême-Orient, la gravure, je pense au Japon en particulier, hein, est quelque chose qui, au contraire, est tout à fait assumé. En Occident, c'est un petit peu plus dur. Et c'est un peu dommage que la gravure ait cette espèce de place secondaire par rapport à des arts uniques comme la peinture, par exemple, parce qu'on va voir que des artistes, et pas des moindres, hein, se sont vraiment déployés dans cette technique artistique. Et justement, aujourd'hui, on va commencer peut-être... bon, c'est la première séance, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose d'un peu soft. Hein. On va commencer par le prince de la gravure, peut-être en Occident, hein, par peut-être l'artiste ou l'un des artistes qui a marqué de son nom ce domaine. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à lui. Alors, avant toute chose, comme je le fais toujours au début d'un atelier, je vais vous rappeler nos petites règles, d'autant qu'il y a des nouveaux ou des nouvelles. Comme ça, vous saurez quelles sont les règles de notre atelier. On n'hésite pas à prendre la parole, même pour dire des grosses bêtises. Hein, on est entre nous, ça, c'est pas un problème. Hein. Oui, en général, il n'y a pas trop de... Voilà, il n'y a pas... Il n'y a effectivement pas trop de problèmes en ça. Mais évidemment, on ne monopolise pas la parole non plus. Hein. On va suivre une certaine méthodologie. Hein, comme je le dis toujours, on fait ici une histoire de l'art. L'histoire de l'art, c'est une science. Elle a beau être humaine, c'est une science aussi. Donc on suit une certaine méthode. Nous limiterons les caractères subjectifs. L'idée n'est pas de dire ici j'aime ou j'aime pas, mais bien de voir, même si on n'aime pas une œuvre, comment elle se situe dans une chronologie, une histoire, un contexte. Nous n'utiliserons pas Internet, donc nous fermons toutes nos petites machines pendant l'heure et demie qui vient. Et puis enfin, si nous savons tout sur ce qui est montré, je remercie aux connaisseurs de s'abstenir, parce qu'évidemment, s'ils disent tout avant même que les autres aient le temps d'exprimer, cette séance n'a plus de but. Hein. Donc voilà nos simples règles que je ne vous repasserai pas à chaque fois, que je repasse maintenant seulement au départ de chaque atelier. Je trouve que c'est important de les rappeler, mais puisque je sais que vous regardez 50 fois avant de venir le podcast, n'est-ce pas, de la séance sur le site de l'ITB, je sais que ça n'est pas la peine de le répéter. Alors, on va, pour se mettre dans le bain de cette première séance, commencer, comme je le fais souvent, par une première œuvre qui va nous permettre de déblayer un peu des choses et d'aborder l'œuvre et l'artiste qui nous intéresse aujourd'hui. Un artiste qui, à mon avis, ne fera pas mystère à grand monde très vite. Hein. Mais bon, voilà, on va commencer par une de ses œuvres, peut-être une des plus étranges d'ailleurs, qui nous permettra de nous jeter dans ce bain-là. Voilà donc l'œuvre que je voulais vous montrer pour débuter ce premier atelier. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Allez-y un peu tous azimuts. Hein. Je vous ai dit qu'il est important que nous ayons une certaine méthodologie, mais en regardant cette première heure de cette première séance, concernant ce 32e atelier, hein, c'est 32 ateliers qu'on fait ensemble, hein, ben là, je vous laisse laisser libre cours aux remarques que vous souhaitez faire, sans méthodologie particulière, justement. Qu'auriez-vous à dire sur cette œuvre, qui est donc une gravure?
Bien que ce soit en noir et blanc, on force sur la lumière.
Oui, alors effectivement c'est très noir et blanc et on voit comment la lumière a une importance effectivement capitale. Ça peut sembler paradoxal. Hein. Une gravure c'est du noir et c'est du blanc, sauf les gravures en couleur, ça existe, hein. On en verra peut-être. Mais là c'est du noir et du blanc et malgré tout la couleur est très forte. Effectivement. Ouais.
Une ambiance très bizarre.
Une ambiance très bizarre, hein. C'est une œuvre étrange. C'est une des plus étranges à mon avis de l'artiste en question. Une sorte d'apparition. Ouais.
C'est une eau forte.
C'est une eau forte. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une eau forte?
Non.
Non. Non. Est-ce que ceux qui savent veulent le dire?
Allez, Michel.
Allez, c'est parti.
On voit deux au premier plan qui savent.
Oui, madame Petit-Rose, non, elle ne veut pas. Alors, une eau forte, c'est une gravure sur métal, cuivre, zinc, suivant la richesse du graveur. Qui consiste à protéger la plaque par un vernis. Et ce vernis, on dessine dans le vernis avec une petite pointe, une plume, avec tout ce qu'on veut en fait. Et ensuite, la plaque est plongée dans un bordant, un acide nitrique, sulfate de cuivre, voilà. Et l'acide n'attaque la plaque qu'à l'endroit où on a fait le dessin. Donc, suivant l'épaisseur de la morsure, suivant l'épaisseur du dessin, la profondeur du dessin, etc. Le temps de morsure, parce qu'on peut aussi, tremper la plaque pendant un petit temps, remettre un petit coup de vernis, puis la reblanc. Donc, il y a les différences de noir et de gris peuvent être obtenues par des différences de temps de morsure, par des profondeurs de taille. Et voilà, et voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait une fois que l'acide a fait son œuvre?
Ah ben, on enlève le vernis, et puis ensuite, on entre.
Et comment on enlève le vernis?
White spirit.
D'accord.
Enfin, à leur époque, je ne sais pas.
Je pense que White Spirit, en tout cas avec cette. Voilà, n'existe pas sous cette marque-là. Enfin, bon, voilà, un équivalent.
Alors, l'artiste en question, lui, il fait beaucoup d'eau forte, mais c'est les eaux fortes qui sont souvent rehaussées de pointes sèches.
Pointes sèches et de burins.
La pointe sèche, c'est la même chose, mais on ne met pas de vernis, donc on grave directement la plaque. Et oui. Ça fait des traits plus épais. Et voilà. Finalement, il nous fait.
Alors, je crois que c'est important à dire. Donc, je pense que tout le monde a bien compris comment fonctionne. Ce qu'on appelle l'eau forte, hein. D'ailleurs ce terme même d'eau forte est très imagé, hein. L'eau forte c'est l'acide qui vient fortement grignoter la plaque là où le vernis a été enlevé par le dessin, comme vous l'avez dit. Ce que vous venez de dire aussi à la fin, c'est que on pouvait faire une eau forte et puis utiliser sur la même plaque, hein, d'autres techniques complémentaires, hein. Par exemple, le burin. Hein, on peut faire tout ce que vous venez de dire pour faire une eau forte. Et puis, on peut décider pour parfois accentuer des traits. On peut décider après de travailler avec un burin. Et dans ces cas-là, on n'est pas obligé de remettre du vernis. Etc. On attaque directement la plaque, ce qui permet de faire des accents, notamment de noir, un peu plus fort. Vous pouvez également utiliser des petites pointes, la pointe sèche, pour faire directement là aussi, sans manier l'acide, directement sur la plaque, des petits traits qui viendront finement donner une nuance particulière. Et cet artiste, hein, vous avez raison de le dire, très souvent utilisait l'eau forte, mais en complément, par exemple, le burin de la pointe sèche, d'accord, qui se fait, le burin de la pointe sèche, sans passage avec vernis, acide, etc. Est-ce que pour tout le monde, grosso modo, la chose est claire, hein. Donc là, on est effectivement devant une eau forte dans laquelle l'artiste ne s'est pas interdit d'utiliser soit le burin, soit la pointe sèche, et on pourra le redire d'ailleurs pour toutes les œuvres qu'on va voir aujourd'hui.
Et puis les papiers sont un peu spéciaux.
Tout à fait.
Oui, après le tirage, oui.
Oui.
Pour le tirage, parce que là, on a un tirage quand même.
Oui, absolument.
Oui, là, c'est une estampe.
Ouais. Souvent d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que, parce que, effectivement, une fois la plaque gravée, via l'acide ou pas, on l'encre, il faut ensuite, parce qu'on l'encre entièrement, ensuite il faut enlever l'encre de la surface pour qu'elle ne reste que dans les creux. Hein. Alors on peut le faire de différentes manières, notamment avec la paume de la main, hein, parce qu'on a souvent les mains toutes noires. Après, on met la plaque sur la presse, on met une feuille sur la plaque, une feuille qui souvent d'ailleurs a été humectée auparavant, hein, autrement, parce qu'il faut bien que la feuille, si vous voulez, vienne chercher en quelque sorte, hein, l'encre qui est dans les creux. Et voilà. Donc le papier, effectivement, une importance capitale. Bien. En tout cas, on a donc déjà bien vu cette question technique qui est importante et capitale pour cet artiste. Vous avez, je crois, en plus signalé deux choses qui me paraissent fondamentales. Vous avez parlé de la prégnance de la lumière, paradoxe dans une œuvre noire et blanche, la lumière là omniprésente. Et vous avez également parlé du côté étrange de cette œuvre. Je crois qu'en soulignant ces deux choses-là, vous avez souligné deux des éléments essentiels de cet artiste qui vont nous occuper pendant l'heure qui vient. Hein. La lumière, l'étrangeté, alors là, qui est à son comble quelque part, hein, c'est vraiment peut-être le leitmotiv de cet artiste. Qu'est-ce que vous voyez d'ailleurs, si on s'adresse au sujet cette fois ? Et effectivement, derrière lui, derrière ce personnage, hein, il y a une tête de mort, un crâne.
Il a une vision.
Ce personnage a une vision. Oui, laquelle ?
À droite, il voit une espèce de silhouette.
À droite, une espèce de silhouette. Ici, c'est ça ?
Oui, ça peut penser au Christ.
Oui.
Il y a un cercle.
Il y a effectivement une sorte de médaillon d'éléments circulaires qui apparaît, hein, comme si à cet endroit-là le rondel, comme on dit, hein, s'ouvrait dans le vitrail et faisait apparaître un message.
Un message divin.
Et qu'est-ce qui vous indique ?
Les rayons.
INRI, c'est le Christ.
J'ai pas entendu.
Donc,
INRI. Oui, absolument. Donc, il y a effectivement marqué INRI. Hein. INRI. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, INRI ?
Jésus
de Nazareth,
roi des Juifs.
Voilà. Hein. Donc, c'est effectivement, vous savez, le panel que l'on voit très souvent, par exemple, présenté sur la croix, hein, qui porte le Christ en croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, INRI, IJ, si vous voulez. Hein, voilà. Donc, effectivement, il y a une dimension mystique, christique, là-dedans, qui est, vous le disiez aussi, supportée par les rayons, hein, qui viennent accentuer cette dimension. Vous disiez même...
D'autres écritures que je n'arrive pas
à... Oui, il y a d'autres écritures. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres écritures difficiles. On peut les lire, mais... compliqué. Donc, effectivement, d'autres réécritures plus ou moins lisibles. Pardon ? J'ai entendu quelque chose ?
Alchimiste, astrologue, en fait.
Quelque chose qui évoque l'alchimie, l'astrologie, oui. Oui, pardon ?
Non, ce qui est intriguant, je trouve, c'est petit rayon sur lequel il travaille, je ne sais pas.
C'est cette chose au premier plan.
Oui.
Qu'est-ce que...
On dirait un livre.
Alors, oui, on a l'impression d'une sorte de pupitre, si vous voulez, hein, avec un livre. Voilà. Et on a l'impression que là, il y en a d'autres. Hein. On a... En gros, il y a des brouillards. Alors, ce qui conforte cette idée astronomico-philosophale, on va dire.
Oui, il y a un globe. Il y a un morceau.
Oui, il y a un globe en bas à droite.
Au premier plan, là.
Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais.
On dirait qu'il écrit quelque chose en regardant.
Oui.
Non, il est appuyé. Il a appuyé avec la main retournée.
Alors, oui. Alors, tout ça me paraît assez vrai. Bon, on a l'impression quand même qu'il tient un stylet dans sa main. Hein.
Oui,
donc, peut-être est-il en train d'écrire au moment où cette apparition, puisqu'apparition, hier, vous l'avez dit, hein, a lieu. Oui. Donc, pour résumer, hein, nous sommes là dans une scène où un personnage entouré d'ouvrages, mais également d'objets qui sont ceux des astronomes, autres savants, y compris alchimistes, que sont les ouvrages, mais aussi le globe céleste ou le crâne. Il est là dans son cabinet, pourrait-on dire, et soudain, une apparition apparaît, ce qui est le propre des apparitions d'ailleurs, et cette apparition a une dimension christique, puisqu'on lit effectivement au centre de ce rondel les lettres INRI, au milieu d'une sorte de gloire de rayon, hein. Et puis il y a quand même des choses plus étranges, pour une partie plus kabbalistique, hein. Il y a des écritures un peu illisibles tout autour de cet acronyme central, pourrait-on dire. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire concernant cette... Si vous aviez à essayer de trouver un nom à ce personnage, vous diriez qui, quoi ?
Nostradamus ?
Oh,
il n'a pas de chapeau, Nostradamus.
Il n'a pas de chapeau.
Ça dépend les choses.
Ah, il y a toujours avec chapeau et d'autres sans, je suis bien passé pour le savoir. En tout cas, je vous parlais de Nostradamus, alors c'est lui ou c'est pas lui, mais ça nous situe bien le type de personnage, c'est-à-dire décidément une sorte de savant qui, dans son cabinet, est en train de rédiger, de réfléchir, de travailler sur des sujets complexes, et c'est au milieu de ce travail, hein, qu'il est surpris par cette apparition assez religieuse. Voilà, ça vous va, ça ?
Oui.
Oui.
Et à part Nostradamus, pas d'autres noms éventuels ?
Non. Un astrologue ?
Oui, voilà, un astrologue. Oui, voilà, décidément un astrologue, un astronome, un savant, peut-être un alchimiste, etc. Bien. OK, donc ça, c'est pour le sujet. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la manière de le représenter au-delà de la technique ? Qu'est-ce que vous diriez ? Alors, on a parlé du côté ombre et lumière, hein, OK. Est-ce que vous auriez d'autres choses à dire quant à la façon de représenter ce sujet ? Il y a mille manières de représenter un savant dans son cabinet en train de travailler et d'être, entre guillemets, dérangé par une apparition. Qu'est-ce qui peut-être, là, peut caractériser la façon de représenter la scène ?
Il regarde, mais il n'a pas l'air surpris.
Oui, effectivement, il est assez impassible.
Impassible.
Oui, oui. Bon, quand on est savant et qu'on trouve plein de choses, peut-être qu'on n'est pas surpris d'une apparition. Mais effectivement, il a l'air assez impassible. Pas plus surpris que ça, en tout cas.
Il y a un bras avec un doigt.
Oui.
Ah oui, en dessous.
Ici.
Oui.
Oui.
Il montre ça.
Oui.
Ah oui.
Ah oui.
Ça y est, maintenant.
Puis, à gauche du vitrail, qu'est-ce que ça peut être ? Une espèce de voile.
Bah, il y a des nuées, hein. Il y a des nuées, là.
Oui.
Et là.
Oui, voilà. Personnage
qui forme des choses. Là, ça a l'air assez ectoplasmique, là, plus matériel. Bon, c'est bizarre.
Oui. Il est vêtu de velours et de fourrure.
Oui, il est assez lourdement vêtu. Il ne doit pas faire très chaud dans son cabinet. Hein.
La manche est de velours.
On a l'impression. Oui.
Il cherche un problème et puis la solution lui est indiquée. C'est-à-dire qu'il est en train de réfléchir à quelque chose et la solution lui vient.
Lui arrive, lui vient.
Oui.
C'est Eureka, quoi.
Oui, donc Archimède.
C'est un lit, à votre avis, pourquoi il est là, ce lit ?
Le, pardon ?
C'est un lit derrière lui où il a le
crâne. Ah, vous verriez un lit à l'arrière ?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'est un lit. Moi, je verrais plutôt des étagères.
Oui, parce que là,
étagères avec des... Alors bon, il y a cette espèce de draperie qui est là, mais c'est peut-être là ce qui fermerait l'étagère, vous voyez. Mais je ne pense pas que ce soit un lit. C'est plutôt... On est décidément plutôt dans un cabinet de travail.
Il y a une apparition comme ça. Pascal ?
Pardon ?
Pascal ?
Pascal ?
Ah ben non, il n'est pas.
C'est trop tard, Pascal. Par rapport aux vêtements. Et je pense cherche quelqu'un qui a eu un éclair de génie.
De génie. À part nous, je ne vois pas très bien.
Ça peut être une allégorie. Ça peut être une allégorie.
Ah, ça peut être aussi une allégorie.
Par exemple, Dieu triomphant de la magie.
Ah oui. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la présentation d'un personnage X ou Y, ça peut être une allégorie un peu générique. Ouais. Bon, et oui, pour en terminer avec la façon de représenter, on a souligné le côté impassible du personnage qui soudain voit la révélation se faire devant lui, lui qui cherche depuis un moment, soudain, ben voilà, ça lui arrive, ok. On a un peu décrit... ce qui l'entoure, ses vêtements, voilà. Et justement, par rapport à ça, il y a d'autres choses à dire, peut-être.
Bah, la composition, on pourrait partager en verticale, mm-hmm. une partie foncée.
Un peu en deux, la partie fenêtre, la partie personnage, peut-être. Oui. Ouais.
Et puis le bas est traité de manière très rapide par rapport au personnage, à la fenêtre et tout ça.
Ouais. Alors ça, effectivement, c'est une chose qu'on peut voir. Hein. Là, les choses ne sont que suggérées. Regardez, globe terrestre, je pense que c'est un globe, il est représenté de manière très légère. Hein. Les bouquins, on les voit à peine. Hein. La partie supérieure est plus aboutie, on va dire. Hein. Ça, c'est tout à fait volontaire de la part du personnage.
Oui, l'accent sur la...
Moi, ce qui me frappe peut-être aussi, enfin, je ne sais pas si vous partagez, hein, c'est le côté, j'allais dire, un peu... comment dire, un peu quotidien de la scène. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si on se transpose à l'époque que l'on va essayer de préciser, qui est celle de cette gravure, alors mais d'accord, c'est un astrologue, un savant, la chimiste, tout ce qu'on veut, ça ne court pas les rues non plus. Mais autrement, la façon dont c'est représenté est assez, assez quotidienne. Enfin, voilà, il me semble, si vous voulez, que le sujet n'est pas traité d'une manière, comment dire, spectaculaire, monumentale, particulière. On a vraiment l'impression d'entrer. Voilà, ça n'est pas extraordinaire, c'est ça. On a vraiment l'impression que si on entrait dans un cabinet d'un chimiste, paf, on tomberait là-dessus. Quoi. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Vous voyez, c'est un chimiste qui est au centre, docte, comme ça, et puis qui soudain. Voilà. Il y a un côté très. Presque banal. Enfin, à partir du moment où on se transpose dans l'époque, et on se transpose dans le métier du personnage, vous voyez. Non, je ne sais pas, ça veut dire une chose qui vous. C'est pas, il y avait une retranscription un peu comme ça, deus ex machina de la représentation, si vous voulez. Alors maintenant, est-ce qu'on a une idée de l'époque de cette gravure?
15e?
Non. 16e? 18e? 19e? Alors 15e, 16e. 18e, 19e.
Non,
première moitié du 17e. Qui dit mieux? Hein? Donc, 15e, 16e, première moitié du 17, 18, 19. C'est ça que j'ai entendu.
Pas 19, 18.
Ah, j'ai entendu. Moi, je ne fais que dire. Moi, je ne me permets rien, vous le savez. Oui, c'est assez. L'éventail est assez large. Bien. Et maintenant, est-ce que vous avez, je sais que quelques-uns ici ont des idées, ou quelques-unes, mais est-ce que vous avez une idée de l'artiste?
Oui.
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 Rembrandt.
Voilà. C'est bel et bien Rembrandt.
Hein? Okay.
Bien. Alors, je vais vous passer le petit cartel correspondant quand même. Hein. Donc c'est bel et bien une œuvre de Rembrandt. On est en 1652. Ah, madame, on est à deux ans de près, c'était bon. Hein. Voilà. Et c'est une œuvre qui représente le docteur Faustreius. Je ne sais pas s'il se prononce bien. C'est assez amusant d'ailleurs parce que vous entendez l'analogie entre Faustreius, si c'est la bonne prononciation, et Faust.
Oui,
oui. Ce qui fait, longtemps, on a dit que cette gravure représentait le docteur Faust. Alors, je sais bien que le docteur Faust est, une sorte d'héritage de vieille légende médiévale européenne. Hein. Mais enfin, le docteur Faust, c'est quand même Goethe, et c'est donc postérieur. Hein. C'est un peu plus tard. Donc, ça ne peut pas être le docteur Faust, ou alors c'est une sorte de... On dit prémonition du docteur Faust, dont effectivement les racines se plongent dans une Europe bien plus médiévale, finalement. évidemment. Hein. Mais il se trouve qu'il y a également dans la vieille tradition européenne hein, l'existence d'un docteur Fautreius, si ça se prononce comme ça encore une fois, qui est un alchimiste en fait, hein, et qui est d'ailleurs un peu comme Faust, une sorte de démiurge qui essaie de faire des tas de choses, et notamment de, vous le savez, créer de l'or, notamment à partir du plomb. Voilà, cette gens dit notamment qu'un jour il y a une sorte de révélation. Alors, il semble d'ailleurs que les lettres INRI, qui veulent dire ce qu'on a vu, hein, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, peuvent également en alchimie dire autre chose, qui est, alors j'ai pas retenu, j'aurais dû le noter d'ailleurs, mais je ne l'ai pas fait, qui veut dire quelque chose comme on peut transformer la matière en or, ou un truc comme ça, et si vous gardez les premières lettres, ça donne INRI, alors avec toujours cette chose qu'il y a dans la science alchimique, hein, cette espèce de volonté de c'est-à-dire jouxter la science et la mystique, grosso modo. Hein. Et ne nous étonnons pas de ne rien comprendre à ce qu'il y a là, parce que c'est justement incompréhensible à nous autres, j'allais dire simples mortels. Hein. C'est effectivement des lettres ou des signes kabbalistiques qui sont donc hors de portée de quelqu'un qui n'est pas initié à cette science. Voilà. Donc, une œuvre de Rembrandt qui présente cet alchimiste dans son atelier, dans son cabinet, avec cette apparition. Alors, je voulais vous montrer cette œuvre parce que je trouve qu'elle est quelque part, d'abord, quand même extraordinaire. On est au milieu du XVIIe. Hein. Certains d'entre vous disaient 18-19e, et on peut le comprendre. Hein. Il y a un côté très novateur dans une œuvre telle que celle-là. Rembrandt, c'est un des princes de la gravure en Europe. Hein. Et alors, justement, aujourd'hui, on va manger du Rembrandt, bouffer du Rembrandt, si vous me permettez l'expression. Ce que j'ai décidé, c'est de vous montrer une vingtaine de gravures de lui. Il nous est arrivé déjà ici dans les ateliers de voir des peintures de lui. Je crois que l'année dernière, c'était le cas notamment, hein, si la mémoire est bonne. Hein. Là, on va s'intéresser à ces gravures. Imaginez que votre arrière-grand-oncle vient de décéder, qu'on trouve dans son bureau un dossier dans lequel il y a plein de gravures de Rembrandt, car il aimait beaucoup Rembrandt. Le problème, c'est qu'évidemment, elles ne sont pas classées, parce que votre grand-oncle avait plein de qualités, il n'est pas celui de ranger les choses, donc ça va être à nous de les ranger. Voilà. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel elles apparaissent, mais il va falloir un petit peu voir ce qu'il en est. Et à partir de quelques vingtaines de gravures que je vais vous montrer, on va à la fois essayer de voir quels sont les sujets, quelle est la manière pardon, de les traiter, peut-être voir aussi si on peut faire des regroupements par sujet, l'idée étant à la fin de cette heure d'essayer de mieux comprendre quelle est la nature, la silhouette de l'œuvre gravée de Rembrandt. Au niveau technique, c'est pas très compliqué, on en a parlé, et Rembrandt est quelqu'un qui a travaillé l'eau forte avec plus ou moins de burin et de point de sèche. Donc là, on est tranquille pour l'heure qui vient, côté technique, en gros, c'est toujours pareil. Avec plus ou moins, encore une fois, de travail, j'allais dire, à sec sur la plaque. Par contre, au niveau des sujets, de la façon dont on est représenté, là, il y a, je crois, pas mal de choses à dire. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire en regardant ces œuvres. Vous êtes prêts et prêts? Eh bien, on y va. Première œuvre.
C'est Faunesque.
Faunesque. OK. Alors, c'est bien Rembrandt, hein, c'est daté, c'est signé, voilà. Qu'est-ce que ça... Alors, on peut peut-être commencer par regarder ce que ça représente.
Saskia.
Pardon ?
Saskia.
Ah, Saskia. Oula ! Alors, on commence avec du lourd, c'est José.
C'est sa femme.
C'est sa femme. Alors, ce serait sa femme ?
Elle a tout en représenté.
Alors, c'est vrai, vous avez raison, que Rembrandt a beaucoup représenté sa femme. Il se trouve que sa femme s'appelait Saskia. Alors, peut-être a-t-il pris sa femme comme modèle pour la représentation de ce que vous voyez là. Par contre, je ne sais pas si le personnage derrière, c'est Rembrandt lui-même.
Non, non, non.
Alors, il est libre. On voit, parce que vous n'avez pas dit, on voit quand même une femme nue au premier plan. Voilà, ça va mieux en le disant, hein. Vous savez qu'ici, nous sommes méthodiques. Hein. On commence par dire ce qu'on voit, même les évidences. Parce que quelquefois, les évidences, on ne les dit pas, puis après, on s'aveugle. Voilà. Donc, il y a une femme nue au premier plan. Voilà. Et puis à l'arrière, il y a effectivement un faux, endormi.
Endormi, mais souffrante, moi, je trouve.
Ah, souffrante ?
Ah oui.
Oh, elle rêve, ah, des choses. Oui, le visage n'est pas
forcément.
Elle est endormie, elle fait des rêves, peut-être un peu. Bon. Ah, c'est peut-être un peu cauchemardesque, oui. Et puis donc, à l'arrière, il y a un faune. Bien.
Qui soulève le voile.
Ah oui, oui, ils se le voile pour mieux regarder. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas.
Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont qu'à faire.
Voilà. Il semble intéressant. Pardon ?
Il leur remet le voile.
Ah, je crains que les faunes soient plutôt aptes à enlever les voiles qu'à les remettre. Je le crains.
C'est ça.
Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous suffit ?
On ne voit pas son regard, mais il a quand même une expression. De voyeur.
Ah oui. Ah oui, il est très concupiscent. Voilà. Je crois qu'on peut dire ça. Oui.
On ne voit pas son regard, oui. On le devine quand même.
Ben, il est un peu baissé vers la chose. Donc voilà, effectivement, le regard n'est pas très visible. Hein. Mais vous avez raison, hein. On sent du désir. Hein. Voilà. Et vous savez ce que ça représente ? Quelle scène ça représente ?
Une scène mythologique.
Une scène mythologique. Ah, il y a une nymphe, une de plus. Il y en a quelques-unes. Hein. Pardon ? Une nymphe qui est donc approchée par un satyre, un faune. Et ça, ça vous dit quelque chose, non ? Est-ce que... alors, ça représente évidemment une scène mythologique, hein, mais est-ce que... est-ce que le but de Rembrandt est simplement ici de représenter une scène mythologique, quoi ? Ça représente une scène mythologique, ok. On va peut-être trouver laquelle, mais est-ce que son but unique, c'est je représente une scène mythologique, c'est-à-dire un faune qui dénude une nymphe ?
Pardon ? Le travail qu'il a fait sur le contraste entre les noirs et blancs et le...
Ah oui, alors il y a effectivement toujours ça. Hein. Ça, chez Rembrandt, c'est... Voilà, vous voyez à quel point... c'est d'ailleurs extraordinaire. Enfin, à quel point l'ombre du satyre ou du faune vient se décalquer sur la nudité de la nymphe. Hein. C'est formidable, ça, quand même. Hein. Donc, c'est, ce côté noir et blanc, effectivement, chez lui, c'est une des grandes choses... Enfin, au niveau de du travail, c'est une des grandes choses qu'il a toujours travaillé. Quelquefois en revenant d'ailleurs dessus.
Oui, oui.
Parfois
il y a
beaucoup.
Un nombre d'épreuves,
ouais. Parfois énorme. Voilà. Mais c'est peut-être le prétexte à présenter autre chose aussi. Que l'on a dit d'ailleurs.
Un péché ? Un nu, ce qui n'était
pas courant. Voilà. Alors, il y en a, mais c'est vrai que.
Ils sont souvent très. Là, il est nature.
Hein. Ah oui, oui. Alors, absolument. C'est-à-dire que là, alors c'est ça, je crois. C'est-à-dire que là, vous avez un nu nature. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une belle nymphette avec voilà. une taille de sylphide, etc. Hein. On a vu tout à l'heure aussi qu'elle n'avait pas des traits super gracieux parce qu'on a l'impression qu'elle cauchemar, etc. C'est pas une nymphe représentée idéalement en train de se reposer dans une nature à corte. Et là, pouf, planté sur le sol, tout ça manque un peu de grâce. Hein. Et effectivement, ce côté un peu rude comme ça.
Encore ordinaire et quotidien comme tout à l'heure.
C'est ça, absolument. Une espèce d'ordinaire. C'est-à-dire que Rembrandt est quelqu'un qui, effectivement, ça je crois que c'est un des grands termes qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui utilise la nature pour présenter des choses ordinaires, même des choses qui sont extraordinaires. Et on vient de le voir. Une apparition dans un alchimiste, ça ne court pas les rues. Hein. Et là, la scène dont vous n'avez toujours pas trouvé ce que c'était ? Non ? Pas grave. Hein. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on voit tous les jours. Allez, on regarde une deuxième.
C'est l'artiste.
Un autoportrait. Donc c'est Rembrandt par lui-même.
Non, c'est pas
Rembrandt.
Non,
c'est pas Rembrandt. Bon, donc c'est pas
Rembrandt. C'est un portrait.
C'est un portrait.
Alors c'est un portrait, mais pas un auto alors.
Non, non, mais c'est le père de l'artiste.
Le père de l'artiste.
Peut-être son père.
Mais peut-être le père. Donc Rembrandt aurait représenté sa famille.
Qui tient une statuette.
Eh ben,
c'est la couloir.
En regardant l'œuvre, je suis longtemps demandé.
Non, c'est la couloir.
Bah, en même temps,
il n'est pas à la même hauteur.
Je ne suis pas sûr, parce que vous voyez, la couloir se termine là, donc il devrait se terminer là.
Il a le coude.
Je me demande, c'est pas un. Je ne sais pas très bien.
Son coude est par derrière.
Je ne sais pas très bien. Je ne crois pas que ce soit la couloir. Je pense que c'est un objet, peut-être une statuette, effectivement. Je crois qu'il tient quelque chose. Oui, voilà, ça fait une perspective un peu. Alors, Rembrandt, quelquefois, un peu non accure de ça, mais c'est quand même quelqu'un qui a l'art de la composition. Hein.
On dirait une photo.
On dirait ?
Non.
Ah, vous trouvez ?
Oh,
oui.
C'est très réaliste.
Alors, c'est très réaliste. Très réaliste. Là aussi, ce que vous disiez tout à l'heure pour l'œuvre précédente vaut pour celle-là. Hein. On est devant quelque chose qui, effectivement, est très. Voilà, on a l'impression de rentrer dans le quotidien de ce personnage qui est, vous disiez, peut-être le père de l'artiste. Certains disaient, tiens, c'est peut-être un autoportrait. Donc, voilà. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très réaliste, très quotidien. Vous parliez de photos, peut-être, pour souligner le caractère réaliste de l'œuvre, justement. Ouais. Au niveau de la technique, eau forte, burin, pointe sèche, ok.
Comme d'habitude.
Toujours ce côté noir et blanc, clair. En gravure en noir et blanc, on ne peut pas faire autre chose que noir et blanc. Mais enfin, après, on utilise plus ou moins ça.
Il y a quand même des images de contraste importants.
Ouais, oui. Pardon ?
Il y a des noirs qui sont quand même hyper forts. Ah oui.
Oui, oui.
Demander au niveau de la technique, il faut vraiment.
Ah ben oui, oui, non, mais effectivement. D'ailleurs, vous voyez par exemple que le noir de l'habit n'est pas tout à fait le même que le noir du manteau. Souvent, parce qu'il y a plus de traits là que là, hein, mais il y a peut-être également ces gradations dans la morsure de la cible dont vous nous parliez tout à l'heure, par exemple. Hein. Il y a peut-être eu aussi des reprises, hein, par exemple, à la pointe sèche.
Le rapprochement des traits.
Oui.
Plus les traits sont serrés, plus c'est noir.
Plus c'est noir.
Et
donc,
c'est totalement différent du tissu de la. De la chaise.
Oui, 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 absolument.
On voit bien les différences de matière.
Donc, effectivement, c'est soulage avant l'heure. Hein. C'est-à-dire que c'est des noirs. Noir, c'est noir, aurait dit l'autre. Hein. Mais avec des gradations dans le noir. C'est quand même. C'est extraordinaire. C'est
ouais,
parce que vous pourriez faire un noir plat. Ouais. C'est pas si simple à faire. Hein.
Ouais.
Il en faut, et voilà, donc c'est...
L'œil aussi, je trouve qu'il a un regard...
Ça a quelle taille
Oh, écoutez, c'est une gravure qui est à peu près cette taille-là, c'est pas énorme. Alors, il y a des gravures plus grandes, hein, mais ce genre de portrait, c'est à peu près ça, 25, quoi, je dirais. Je peux me tromper de quelques centimètres. Mais... Je vous en montre une autre.
Il y a du monde.
C'est plus clair. Etcheomo, j'entends.
Etcheomo, oui, oui.
C'est quoi l'Etcheomo ?
Présentation du Christ.
La présentation du Christ au peuple. Hein? Voilà. Donc, effectivement, on voit le Christ qui est présenté au peuple. Ok ? Qu'est-ce que vous auriez à dire ?
Là, elle est claire.
C'est plus clair.
Ah, c'est plus clair.
Ouais.
L'ensemble. C'est très architecturé.
Très architecturé, très structuré. Ça nous change de ce qu'on a vu par ailleurs. Hein.
Oui, oui, là, c'est droite et...
Ça fait moins ordinaire que les autres, ça fait plus théâtral. On dirait que vraiment, il pose, là, par rapport aux autres.
C'est vrai qu'il y a... Ah ben, d'ailleurs, la scène, peut-être, le veut, en quelque sorte. Hein. Mais vous avez raison, c'est beaucoup plus structuré, c'est plus... C'est plus théâtral, effectivement. Oui. On a l'impression d'un spectacle, quelque part.
Oui,
mais c'en est un.
On a les personnages aux fenêtres,
ouais.
Tout ça.
Il y a un côté moins vie quotidienne dans lequel on surprend les gens.
Ça doit être une scène de théâtre.
Ça doit être beaucoup plus grand aussi.
C'est une gravure plus grande.
Pas très grande.
Non, non. Mais ça fait partie des représentations des scènes de la vie du Christ. C'est un peu plus grand, effectivement. Ça, c'est un peu plus grand.
Est-ce que c'est un document qui fait suite à un tableau déjà réalisé ou préparatoire à un tableau à venir ?
Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous et les autres, hein, enfin.
C'est possible.
Ça pourrait.
Oui, ça pourrait.
Je crois que
Surtout que ce n'est pas complètement fini.
Non, parce qu'il y a la partie droite n'est pas.
Alors, ça, c'est une. Alors, voilà, vous avez raison, il y a un côté. Il y a un côté, on l'a remarqué tout à l'heure avec notre alchimiste, vous vous rappelez, le premier plan. Hein, et ça, c'est un leitmotiv chez Rembrandt. C'est-à-dire qu'il y a toujours des parties volontairement un peu laissées telles quelles. C'est très volontaire. Donc la partie droite, ici, elle a l'air moins chiadée que la gauche, hein, mais aussi comme si elle était plus éclairée. Hein, voilà. Et ça, c'est très rembrandtesque hein, de laisser comme ça des choses un peu légères sans qu'elles soient vraiment terminées. Hein.
C'est pour concentrer le regard,
c'est là sur une belle partie. Mais il y avait autre chose que vous venez de dire qui me paraissait intéressant. Donc vous avez parlé de ce côté pas tout à fait terminé. Et puis quelqu'un avait dit autre chose avant, je crois, non ?
Oui, moi je vous ai parlé de savoir si cette gravure précédait un tableau à venir ou bien représentait un tableau réalisé.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Rembrandt, si vous voulez, Rembrandt utilisera la gravure, à quelques exceptions près, comme un médium artistique en soi. La gravure, c'est pas une préparation pour une peinture. Donc il bricole avec une gravure, puis après il fait la peinture. Quoi. Là, c'est du sérieux. Non. Alors il y a souvent les mêmes sujets. Hein, c'est-à-dire qu'il a fait des Etcheverry, il a fait des philosophes en méditation et tout le bazar. Mais en général, si vous voulez, la gravure est autonome par rapport à la peinture. Voilà. La gravure est un art en soi. Donc, il ne fait pas de la gravure une sorte d'ersatz d'un médium plus noble et plus important que serait la peinture. La gravure, elle existe en soi. Ce n'est décidément pas un truc secondaire.
Et ça doit lui permettre. Pareil avec des élèves, enfin, des disciples.
Alors, ce genre de choses, il le fait tout seul. Rembrandt, comme tout peintre, il a des gens qui, de temps en temps, viennent dans son atelier. Tu vois. Mais c'est vraiment un peintre seul, quoi. Enfin, voilà. Alors, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de temps en temps des gens qui viennent pour préparer les couleurs, pour l'aider à faire une chose, etc. Mais Rembrandt, ce n'est pas Rubens. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 40 personnes autour de lui. Rembrandt, c'est il est dans son atelier, tout seul, il travaille. Il peut avoir un élève, il peut avoir un... Ça veut dire quoi?
Il faut qu'on dégage.
Oui,
il a l'air
déjà. Donc faut qu'on arrête, c'est ça?
On laisse tout en plan.
On
laisse tout en plan et on descend.
Et on
laisse
tout
en plan. Je laisse mon ordi, ça risque rien.
Non, ça risque rien.
C'est bien embêtant quand même. Mais c'est un essai.
C'est peut-être
avec
l'origine.
Thank you.
puis ils ont pas réglé trop leurs affaires. Hein.
Non, c'est vrai. Là, il y en a un sac. Ouais, pas tellement.
Hein. C'est pas tellement laissé leurs affaires. C'est lui qui a laissé plus son ordinateur. Oui.
Puis qu'il croyait pas.
Oui, tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Mais c'est peut-être Fournier qui sait quoi le faire.
Ah, c'était Fournier,
non? Oui. Non, c'était une conférencière, mais c'est Fournier qui était aux manettes.
Ah oui. Ah oui, comme d'habitude, au début.
Non, il est resté. Elle était debout, la conférencière, et lui, il était assis. Ah, fait drôle. Parce qu'en général, la conférencière, elle est assise.
Oui, je pense qu'elle fait...
Ça va.
Bon, on est resté, nous.
Madame a beaucoup de mal à se déplacer, donc elle a
déjà fait. Vous avez préféré rester.
Elle l'a déjà fait. On a pas fait.
Et vous aviez déjà eu l'exercice tout à l'heure.
Oui, j'ai eu le même exercice tout à l'heure.
Ah bon ?
Oui.
Alors, au bout d'un moment. Voilà.
On n'y croit plus.
Là. Bon. Oui, ça coûte dans la dynamique de.
Non, pas du tout.
Vous inquiétez pas, on va se mettre.
Je ne sais pas où j'en suis.
Il nous a attendu, Rembrandt. Hein.
Ah, il Rembrandt a attendu. Il n'est pas descendu, il n'a pas suivi les consignes.
Oui, bah on reste là.
Ah,
bah
ouais, ça
fait
bon.
C'était si les oreilles.
Tout le monde est là.
Allez, viens.
Voilà. Ben oui, je ne sais pas si tout le monde est là. Enfin. Bien. Alors, après ces émotions, nous reprenons le cours des opérations. On en était resté au fait que Rembrandt considérait la gravure comme un médium en soi et que ça n'était pas une sorte d'élément de préparation pour la peinture. Donc, même s'il a quelquefois, je pense encore une fois aux philosophes dans leur cabinet, etc., fait dans ce type de sujet, dans la peinture comme dans la gravure, l'un n'est pas la préparation de l'autre. Il y a vraiment une autonomie d'un art par rapport à l'autre. Voilà.
Merci.
C'est bon. Vous croyez brûlé, c'est pas le cas. Bien. Voilà. Alors, passons à la gravure suivante.
C'est un autoportrait.
Voilà, donc ça, c'est un autoportrait de lui jeune. Qu'est-ce qui caractérise cet autoportrait de lui jeune ?
Le regard.
Il se donne
une expression.
Voilà, il se donne une expression. Effectivement, il y a de sa part une volonté de d'outrer l'expression. C'est-à-dire que c'est, là, on est plus sur le côté, voilà, oui, c'est ça. On n'est pas sur le côté un peu, j'allais dire, banal qu'on a pu avoir tout à l'heure. Hein. Là, il se donne une expression, hein, et un peu outré, je dirais, hein, qui permet de faire évidemment de ce visage quelque chose qui n'est pas, je dirais, le visage normal de quelqu'un. Il accentue, il force le trait. Hein. Ok.
Il a les cheveux dressés sur la tête.
Oui, là, regarde, comme si vous voyez quelque chose d'effrayant.
Ah oui, il y a vraiment la volonté, effectivement, de se mettre en scène, de mettre en scène sa tête, son regard. On ne sait pas si c'est de la crainte, de la peur,
de l'étonnement.
L'étonnement, de la surprise. Vous voyez quand même l'extraordinaire maîtrise du trait, hein, par parenthèse. C'est incroyable.
Et quand on le voit de près, parce que je l'ai vu en mois d'août, là, c'est grand comme ça.
C'est tout petit.
Il nous donnait des loupes, hein, pour...
Ouais, c'est tout petit et c'est extraordinaire, parce que c'est rien et c'est beaucoup.
On voit très bien les traces de la cuvette.
Oui. La cuvette, c'est ça, hein, c'est le bord de la plaque, quoi, finalement. C'est ça, parce qu'évidemment, la plaque s'imprime sur le papier, quoi, puisqu'elle crée, sur la presse, elle crée une épaisseur. Allez. On va continuer à passer avec tout ça, on est en retard.
Ah, ça, c'est un mendiant.
Un mendiant, oui. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire là aussi? Alors, quelquefois, on répète des choses qu'on a déjà dit, mais voilà, c'est aussi ce qui permet que ça rentre.
C'est quelque chose de vu.
Voilà, c'est la notion de vue, effectivement. Ouais. On a là.
C'est une étude de personnage.
Voilà, un vrai personnage vu dans la rue, un mendiant avec une jambe de bois, un homme, évidemment.
Un bras en écharpe.
Voilà, ouais, un bras en écharpe. On voit bien toute la misère qu'il y a derrière ça. Donc, on est vraiment dans le Rembrandt qu'on connaît par ailleurs, quoi, celui qui représente des choses de la vie, ou qui, quand il représente des choses plus exceptionnelles, comme notre faune avec sa nymphette tout à l'heure, le fait à la manière normale de la vie, si j'ose vous rappeler. Hein. La nymphette, elle était représentée comme une femme, je dirais, normale, quoi, pouf, surprise dans son sommeil, pendant quelques cauchemars, quoi.
Ça reste lumineux parce qu'il n'y a pas de noir profond.
Oui. Décidément, hein, la question de la lumière et du noir est quelque chose qui est récurrent chez lui. Et là, bah, le but, c'est de faire quelque chose de lumineux. Le noir n'est presque pas là, sinon pour dessiner le personnage.
En fait, il y a très peu de traits.
Hein. Il y a très peu de choses. Très, très peu de choses. Que l'on dise une vignette, c'est pas grand.
Oui, c'est pas grand.
Oui.
C'est un peu plus grand.
Ouais. Allez.
Un paysage,
oui, c'est très beau.
On dirait de la
peinture,
presque.
Ouais, ça fait penser, oui, presque, oui. Ouais, ouais.
Traité sur l'horizontale.
Alors là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire?
On ne voit rien du premier plan, ou presque non. Rien.
Non, ouais.
Rien d'arrière-plan.
Oui.
Et on va du foncé à la lumière.
Oui.
Non, mais c'est magnifique, parce que on voit la différence entre... l'épaisseur des arbres selon le chaume de la
des toits,
c'est différent, et la pierre, c'est super.
Ah oui, c'est même, c'est Rembrandt, c'est quand on plonge là-dedans, on est stupéfait, quoi. Hein, c'est un très grand maître de la gravure. Hein.
C'est forcément une gravure très fine.
Oui. Et qu'est-ce que ça vous fait? À quoi ça vous fait penser par rapport à l'art du temps ou à ce qui se fera plus tard?
On est presque un truc impressionniste.
Et oui, c'est ça.
Moi, oui, alors peut-être, j'irais peut-être pas jusqu'à Brévier, moi j'irais jusqu'à l'école de Barbizon. Il y a un côté très barbizonien, vous voyez ce que j'ai. C'est-à-dire que c'est les barbizoniens, vous savez que Barbizon, c'est cette école picturale qui, dans le sillage de Corot, on va dire, décide de sortir de l'atelier. Et quand ils font un paysage, c'est pas je vais dans la nature, je fais trois croquis, puis je rentre dans mon atelier pour refaire le paysage un peu mieux, quoi. C'est je fais carrément le paysage, la peinture dans la nature. Quoi. Voilà. C'est ça l'école de Barbizon. Eh bien, là, c'est ça, mais avec la gravure. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est peut-être d'ailleurs le cas, hein, que Rembrandt, il sort, il fait ça in situ, si vous voulez. Il y a un côté Barbizon deux siècles avant. Quoi.
Il y a des chances qu'il ait fait le dessin sur place.
C'est très vraisemblable, oui. Et donc, on est là devant quelque chose de très...
À l'époque, on ne fait rien sans un personnage.
En même temps, qui est... Pardon, vous disiez...
Je disais qu'à cette époque-là, on ne faisait aucun paysage sans personnage.
C'est vrai que souvent, il y a des personnages un peu prétexte. Oui, voilà. Là, il y en a guère. Hein. On voit un là. Bon, enfin, c'est une silhouette. Alors, cela dit, quand on voit le reste de l'œuvre de Rembrandt qu'on a vu avant, on est un peu moins étonné. C'est-à-dire que il représente ça d'une manière très, je mets des guillemets, très banale. Hein. C'est vraiment, on sort, on voit ça, quoi. Tout comme il représentait les personnages qu'on a vus. Rappelez-vous le portrait d'homme là assis. Oui. Ben c'est pareil, c'était très malin. On entre chez lui, paf, on le trouve, il est comme ça. Quoi. Voilà. Donc, finalement, il a une politique de travail et de présentation des choses qui est celle d'une sorte de simplicité du regard tel qu'on dit, le réalisme dont vous parliez tout à l'heure. Hein, voilà. Et simplement, le problème, c'est qu'à l'époque, c'est pas tellement ce qu'on fait. Quoi. Voilà. Je dis pas qu'on soit abstrait à l'époque. Mais l'idée d'un réalisme un peu... brut de l'écoffrage n'est pas vraiment ce qui a ce qui tient le haut du pavé.
Ah,
hein.
Wow. Oh, ça n'est pas la dernière version.
Pardon ?
Ça n'est pas la dernière version.
Exact. Alors peut-être vous pouvez nous en dire plus, justement.
Non, je me tais.
Alors là, le sujet, il n'y a pas trop de problème.
Non.
Hein?
C'est
c'est la crucifixion, on est d'accord, bien. Et alors là, qu'est-ce qui frappe dans cette...
C'est le puits de lumière.
Voilà, c'est effectivement la lumière, une espèce de, de puits de lumière absolument incroyable. On parlait de théâtre tout à l'heure, alors là, on a l'impression d'être sur une scène. Hein.
C'est la même série de gravures que les Géomons.
Pardon ?
C'est dans la même série.
Alors, en tout cas, ça fait partie des gravures qui présentent la vie du Christ et précisément la passion du Christ. Hein. Donc effectivement, ça fait partie de...
Et les
cette série-là.
Les miracles.
Oui. Oui, mon frère d'ailleurs. Oui, oui. Alors, Michel, quand même, vous disiez un truc qui était important à préciser, que là qu'on ne voit pas, puisque je ne montre qu'une chose, mais peut-être dites-le.
Ah oui, que ce n'est pas la dernière version, c'est-à-dire qu'il y a. Je crois qu'il en a fait 9 de celle-là. Enfin, je ne voudrais pas. Je ne suis pas sûr.
Enfin, un certain nombre.
Un certain nombre, oui.
C'est plus long.
Et donc, et elles sont de plus en plus noires. La dernière version, on a vraiment un cône de lumière très très rétréci, tout le reste est très très noir.
Très, très noir.
On voit presque rien. J'ai le catalogue de l'exposition de Fontevraud, je l'apporterai.
On voit presque rien. Donc effectivement, vous avez là que un état de cette œuvre, parce que évidemment l'intérêt d'une plaque de cuivre, c'est qu'une fois que vous avez tiré ça, vous pouvez la reprendre après. Et puis continuer, faire plus de noir à un endroit. Vous pouvez même faire plus de blanc. Vous pouvez quelquefois bûcher un endroit. Hein. Il y a même un nom que je n'ai plus. Mais bref, pour faire que là où vous avez du noir, si vous voulez du blanc, vous pouvez faire en sorte de relisser le cuivre, n'est-ce pas ? C'est possible.
Avec un brunissoir.
Un brunissoir, brunir, voilà, c'est ça que je cherchais comme nom. Et donc, voilà, donc la plaque de cuivre, si vous voulez, vous pouvez la recharger ou la décharger, en fait. Et c'est ce que ne sait pas privé de faire Rembrandt, par exemple, pour cette œuvre-là. Là, on voit effectivement quelque chose qui doit être le troisième état, je crois, ou le quatrième. Mais il y en a. Il est allé quelquefois jusqu'à faire 15 états différents, hein, sur une même plaque. Hein. Donc, vous voyez, et donc en allant vers un rendu très, très différent. Donc, effectivement, là, c'est une de ces œuvres qui montre le plus, je crois, une espèce de prégnance de l'ombre et de la lumière. Hein. Oui. Alors là, encore une fois, souvent on a à redire les mêmes choses, mais voilà, la pédagogie, c'est se répéter tout le temps. Hein. Et au bout d'un moment, après, on sait de quoi on parle. Hein. Donc là, oui, qu'est-ce que vous diriez ?
La lumière,
je crois que c'est toujours la même chose. Hein. Là aussi, le rapport ombre-lumière est important, puis je crois qu'il y a autre chose encore.
Mais c'est quand même une eau forte.
Oui.
On ne voit pas beaucoup de...
On dirait presque une peinture.
Alors, c'est une eau forte. On dirait presque une lithographie, moi, je trouve. Oui. Mais ça n'en est pas
une. Ou une manière noire.
Pardon ?
Ou une manière noire.
Ou une manière noire, oui. Ouais. Mais c'est une eau forte.
C'est quoi ?
Alors, la manière noire...
Ah, c'est compliqué, ça.
Mais là, on voit la source de lumière. Ouais. Avant, on ne les voyait pas, les sources de lumière. Là, on voit que c'est la fenêtre.
Puis c'est une scène de vie.
Alors voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est effectivement une scène de vie. Décidément, c'est comme le personnage de l'heure, on le surprend dans une sorte d'intimité. Il s'est là accoudé à la fenêtre pour regarder tranquillement et lire un libelle. Enfin, voilà, il a posé son épée à côté de lui, il y a un doux bazar dans la pièce. Voilà, tout ça n'est pas du tout à prêter.
N'empêche qu'il y a moins de contraste que dans les autres. Là, on a du gris et du blanc.
Ouais. Alors on peut-être dans cet état-là, hein, parce que là aussi, il y a plusieurs états de la gravure et qui va aller vers un contraste de plus en plus accusé.
Et qu'est-ce qu'il y a sur le mur du fond ? C'est
un tableau. C'est un tableau.
Un tableau avec un rideau.
Avec un rideau.
Comme on a vu.
Hein, vous rappelez de l'histoire du rideau sur le tableau ?
Oui.
Hein. Bien. Allez, ne prenne pas de retard.
Ça représente quoi un rideau sur un tableau ?
Alors, en fait, très souvent, autrefois, par exemple, en Flandre-Hollande, on mettait sur les tableaux des rideaux qui évitaient que les tableaux salissent, tout simplement. Hein, que les mouches aillent trop dessus, que la poussière, que la suie ne se dépose trop, on se met à protéger le tableau. Et puis il y a autre chose qui est que une vieille légende antique de la peinture raconte qu'un vieux maître un jour s'était fait surprendre un de ses élèves qui avait peint un faux rideau sur sa peinture, et le maître s'était fourvoyé en croyant que c'était un vrai rideau. Et c'est donc un des grands mythes anciens de la peinture, le mythe de Zeuxis, qui est un maître qui donc s'est fait berner, si vous voulez, par un de ses élèves, qui donc sur une de ses propres œuvres avait peint un faux rideau. Et le maître avait cru que le rideau peint dans son œuvre était un vrai rideau posé sur son œuvre. Si vous voulez. Or, c'était un rideau peint sur son œuvre. Et donc, c'est un des grands mythes fondateurs en Occident de l'idée de la peinture, qui montre en fait que la peinture, c'est une illusion. C'est ça, donc, pour résumer très vite, hein, le sujet de cette thématique. OK ? Donc, c'est fait que quand il y a une notion de peinture, là, dans la pièce qu'on a vue précédemment, hein, c'est simplement un élément quotidien. Souvent, les gens chez eux ont des rideaux parce qu'ils les enlèvent hein, pour pas que la peinture s'abîme. Hein. Mais c'est en même temps une évocation du mythe de Zeuxis, c'est-à-dire de ce peintre grec mythique qui, encore une fois, s'est fait berner par son élève qui a représenté, hein, qui a peint un faux rideau sur la vraie œuvre de son maître. Voilà. Je résume un peu l'affaire en attendant la prochaine alarme. Bien. Et alors, là.
Joseph
et Putifa. Alors, vous racontez l'histoire.
Joseph avait été accueilli chez c'était Pharaon. Hein, c'était
C'est le général de Pharaon.
Le général de Pharaon.
Enfin, un gradé, hein, je ne sais pas si le général, commandant. Chez les Égyptiens, d'ailleurs.
Et la femme de ce général, qui s'appelait Putifa, cherchait, était tombée amoureuse, ou en tout cas désirait Joseph, et cherchait à l'attirer dans son lit, ce que Joseph refusait impérativement, et du coup, elle l'avait accusé de l'avoir fait, ce qui était faux.
Ouais.
Mais néanmoins, il fut emprisonné. Voilà, et suivirent après les rêves de Joseph.
Alors après, c'est toute une autre histoire.
C'est une autre histoire.
Donc, effectivement, voilà la femme de Putifar qui est en train, et elle y met les moyens, hein, d'essayer de retenir le pauvre Joseph pour qu'il aille avec elle, et lui n'a pas trop envie, comme vous le voyez. Bien. Donc, c'est une scène biblique. C'est pas une scène mythologique comme tout à l'heure, avec notre faune et notre nymphette, c'est une scène biblique. Hein. Alors là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire sur la façon que Rembrandt a de rendre cette scène ? Noir, blanc, toujours, décidément, c'est le grand truc. Et puis.
Et quand même les chairs.
Oui. Ouais.
A une torsion étrange.
Ah oui, le corps de la femme a une torsion vraiment bizarre. De toute façon, dont la cuisse se.
Le bassin est de face et le torse.
Ah, très très bizarre. Bon, on sent qu'elle fait tous les efforts, c'est à se contorsionner, c'est une contorsionniste, hein, pour que le pauvre Joseph reste avec elle. Hein. Tout ça n'est pas non plus d'une grâce, n'est-ce pas, hein. Voilà. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Et ça fait partie du truc, c'est-à-dire que, en plus, elle a un côté ridicule avec son espèce de chemise de nuit troussée. Enfin, c'est ridicule. Quoi. Donc il y a quelque chose de ridicule puis de vraiment disgracieux, quoi. C'est moche. Quoi.
Puis il y a une dynamique. C'est
ça bouge. Diagonale. Ça bouge, oui. Et là aussi, vous voyez encore hein, la différence entre les choses très esquissées hein, et les choses beaucoup plus hein,
marquées.
Et il y a le pot de chambre en dessous. Ah oui, alors ça, c'est aussi là. C'est un nordique Rembrandt. Hein. C'est-à-dire, il y a très souvent une espèce de trivialité hein, que les nordiques ont représente. Je crois que c'est l'année dernière, je vous montrais des œuvres de Jordaens, qui est lui flamand, hein, mais où on voyait, vous rappelez, le roi bois. Où on voyait une femme qui torche un gosse au premier plan, un autre qui vomit dans un coin. Enfin. Voilà, donc les Flamands, les Hollandais, ça ne les gêne pas, quoi. Ils montrent une espèce de réalité dure, une brutalité de la vie quotidienne, qui est aussi une manière pour eux de s'amuser de la vie et de montrer les limites de l'homme. Ce qui est toujours une manière de nous ramener là où on est, si vous voulez. Il ne s'agit pas de penser qu'on est extraordinaire, quoi. Alors, on continue, parce qu'avec tout ça, il faut quand même qu'on avance. Encore un paysage, le fameux paysage aux trois arbres, un des plus célèbres de Rembrandt.
Un des plus grands aussi.
Pardon ?
C'est un des plus grands, il est grand.
Oui, c'est grand celui-là. Ouais.
En Amérique,
l'impression qu'il pleut avec ses
traits. Eh oui, il y a effectivement, c'est un des plus marqués sur ce plan-là, d'ailleurs, avec une espèce de grande rayure, là. Le côté atmosphérique, clair-obscur. Oui, ben, c'est l'impression qu'on a, en tout cas. Oui. Bon, je crois que là aussi, hein, ce qu'on disait sur le côté barbizonien de Rembrandt, enfin, je mets des guillemets, hein, est évident, hein, c'est vraiment toujours, je crois qu'on va répéter jusqu'à la fin, hein, le clair-obscur, le côté très, entre guillemets, réaliste, et nous le comprenons. Voilà, je crois que jusqu'à la fin, on va le dire, mais bon, au moins on le sent. Hein.
Encore
un autoportrait, absolument. Qui vous dit quoi par rapport au précédent qu'on a vu?
Il est plus âgé. Il est plus âgé.
Oui, alors il est plus âgé, effectivement. Ça veut donc dire qu'il a récidivé dans le thème. Hein. Mais les autres portraits de Rembrandt peints et gravés, il y en a un certain nombre. Hein. Donc il y en a un paquet, oui. Je crois qu'il y a au moins 35 autres portraits gravés. Hein. C'est,
ah ouais,
voilà. Je chiffre en tête, je me trompe peut-être, mais enfin il y en a beaucoup.
Il est en train de dessiner?
Oui, c'est ça, il est en train de dessiner ou de graver d'ailleurs. Hein. À vrai dire, on ne sait pas.
Il n'a pas les mêmes yeux.
Il n'a pas les mêmes yeux, oui. Quelle est la différence par rapport à l'autoportrait qu'on a dit tout à l'heure?
Il montre la jeunesse fougueuse.
Oui.
Dans l'autre, la jeunesse fougueuse et tout. Et là, le côté déposé, plus calme de l'âge venant.
Oui, oui. Effectivement, ce n'est pas le même âge. On voyait un jeune homme. Maintenant, il est plus âgé, il est plus mûr. Puis là, il ne se met pas en scène. Hein. Tout à l'heure, on a vu. Hein, il faisait celui qui était apeuré avec ses yeux, si je suis en bataille. Hein. Là, on le surprend, un photographe vient Chico qui fait la photo dans son atelier. Quoi, hein. Alors que tout à l'heure, il se met en scène comme ça, d'une manière un peu spectaculaire. Hein. Absolument.
Ça fait très japonisant.
Ouais.
L'arbre mort.
Ouais.
C'est étonnant parce que derrière, il y a une sorte de fauve, là. De...
Oui. Lion. Oui, oui, il y a un lion.
Il y a
un personnage.
C'est
Saint
Jérôme.
C'est Saint Jérôme.
C'est Saint Jérôme.
Ah oui, c'est Saint Jérôme. Donc c'est effectivement amusant de voir comment dans cette œuvre-là, Saint Jérôme, qui n'est quand même pas le premier venu, hein, passe au deuxième plan par rapport à l'arbre.
On le voit
à peine.
Il y a quand même ce chapeau de cardinal.
Oui, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Mais il y a son crâne, son chapeau de cardinal, il est en train de bouquiner, comme d'habitude, la Bible. Hein. Et il y a son lion, enfin, bah, il y a tout ce qu'il faut. Mais en fait, ce qui intéresse Rembrandt, c'est quand même l'arbre. Hein. Avec là aussi, ce noir sur noir incroyable. Quoi. Et vous voyez, là aussi, l'esquisse à l'arrière, hein, une espèce de paysage dans lequel il se trouve, qui est vraiment suggéré, avec trois petits trucs, jusqu'au petit oiseau.
Oui.
Il se passe quoi?
La prédication du Christ.
Alors, c'est. Oui, alors, on pourrait dire que c'est une des prédications, même si on pourrait peut-être mettre des guillemets à la prédication. Oui, c'est quel épisode, précisément? Quels épisodes? Alors, voilà, on l'appelle pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas très explicites. Ouais. Je crois que ça s'appelle, on verra tout à l'heure, la pièce au cent deniers, un truc comme ça. Mais pas pour ce qui est représenté. Elle s'appelle la pièce au cent deniers parce que Rembrandt avait vendu à un amateur cette gravure pour 100 deniers. C'est ça qu'on appelle la pièce au cent deniers. Ah. Mais ça n'explique pas ce que ça représente. Ouais. Ce que ça représente, c'est quoi? Alors, c'est pas une guérison, même s'il y a des gens pas terriblement en forme au premier plan.
C'est pas la fin d'un
livre. Non. Non plus. En fait, c'est le moment où le Christ est entre le peuple, en gros, hein, et les pharisiens. Les pharisiens qui se moquent de lui, qui trouvent que c'est n'importe quoi. Puis il y a le peuple qui vient parce qu'ils se disent il va toujours faire un miracle pour nous ressusciter quelqu'un. Hein. Et il y a notamment des petits-enfants. Et Pierre essaie d'écarter un peu les gosses en disant bon, allez, laissez-le respirer une minute. Et c'est là qu'il dit laissez venir à moi les petits-enfants. Et vous voyez Saint-Pierre qui est là, qui essaie notamment d'écarter la femme qui avait un enfant, et il lui dit, bah non, de laisser venir à lui les petits-enfants, vous connaissez. Et là, Rembrandt a manifestement aussi doublé ça d'un autre épisode qui est proche du précédent, où un jeune homme lui dit en disant, écoutez maître, comment est-ce que je peux faire pour pour aller dans le royaume de Dieu. Or, c'est un jeune homme très riche, etc. Sans doute celui qui est représenté là. Et le Christ lui dit, bah, écoute, il est plus simple pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Hein. Et chose amusante qui n'est peut-être pas le fruit du hasard, sur la droite, il y a un chameau là.
Ah oui.
Ou un dromadaire. Hein. À une ou deux bosses. Voilà. Bon, là, on ne va pas nous refaire le coup du noir, du blanc, oui, etc. Là aussi, il y a plusieurs états, ainsi de suite. Voilà, hein, on est d'accord. Et ça, ça vous inspire quoi ? Un autoportrait. Et par rapport au précédent, vous diriez quoi ? Voilà, là, effectivement, il prend la pose. Hein. Voilà. Il prend la pose, il prend le costume, il met le chapeau de côté. Enfin, ça le fait, quoi.
Il a copié sur un portrait de Titien.
Absolument. C'est la reprise des thématiques des grands Vénitiens, Titien Giorgione, hein, notamment un Titien célèbre. Voilà. Donc effectivement, là, c'est pas l'espèce d'ahuri de tout à l'heure. Hein. C'est pas non plus le gars qu'on surprend son atelier en train de dessiner. C'est... Voilà. Intéressant de voir comment il utilise sa figure pour faire des tas de mimiques différentes. Hein. Voilà, mendiant, ça nous rappelle notre Goethe tout à l'heure, vous rappelez. Donc là, on est vraiment dans la représentation basique du quotidien. Bon, voilà, on ne va pas faire le réveillon là-dessus. Ah oui, là, je vous passe quelque chose. C'est ça, deux états différents. Alors là, je vous montre ça, parce que j'ai eu l'opportunité de trouver ça, mais vous voyez que les deux états sont presque pareils, mais pas tout à fait. Vous sentez que celui de droite est quand même plus chargé, hein. Voilà.
Oui, il y a une double grille.
Voilà, absolument.
Il y a une grille devant les vitres.
Voilà, c'est ça. On sent qu'il y a eu quelque chose en plus.
Il y a une la main est plus claire.
Voilà. Et ce qui vous montre que, alors quelquefois les états, on disait pour les trois croix tout à l'heure, hein, quelquefois les états sont incroyablement différents. C'est-à-dire l'un est clair, l'autre est foncé. Enfin, ça se voit comme une figure. Oui. Quelquefois c'est beaucoup plus subtil. Hein. Donc là, vous avez un portrait d'un homme que Rembrandt connaît. Hein. Rembrandt a fait plein de portraits, il était quand même assez célèbre de son temps. Hein. Et donc, il a fait beaucoup de portraits gravés. Vous avez le cas là, avec toujours ce côté très naturel, si vous voulez.
C'est sa mère.
Sa mère, absolument. C'est sa mère. Pardon ? Oh, elle a surtout des plis. Alors, il y a peut-être quelques poils au milieu des plis. Hein. Mais oui, c'est sa mère. Sans doute plus beaucoup. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est quoi aussi, là ?
Le cadrage,
voilà, la mise en page, ouais, tout est en bas. Hein. C'est-à-dire que volontairement, ils n'utilisent pas le haut. Quoi. Ce qui donne évidemment ce côté très incongru, hein, là. On a l'impression qu'il y a là le menton, ça. C'est très, très, très surprenant. Quoi. Donc le cadrage, et vous voyez ça.
Un gribouillé.
Un gribouillé. C'est du Saïd Romouli avant l'heure.
C'est
très travaillé. Très travaillé, oui. Alors là, oui, c'est très, très travaillé. Saskia, alors ?
Oui.
Marie-Madeleine ?
Marie-Madeleine, oui, c'est vrai que ça fait penser aussi. Bon, en tout cas, très travaillé. Il y a quelque chose de plus docte, là, quand même. Hein. On sent qu'il y a un côté plus officiel. Enfin, je ne sais pas, c'est ce que je veux dire. Oui, elle tient quelque chose. Enfin, il y a... on a l'impression qu'elle est un peu apprêtée, elle est peut-être surprise dans un quotidien, mais un quotidien qui doit être un peu particulier, non ?
Non, mais c'est très solennel.
C'est solennel. Hein, on n'est pas devant le côté vie quotidienne qu'on a pu enlever ailleurs.
Hein. Très impérial.
Oui, quasiment. Hein. Tiens, d'ailleurs.
Tiens, encore lui. Avec son...
Avec sa femme.
Eh bien, avec sa femme. Là, vous avez Rembrandt, effectivement, avec sa femme. Donc, on a vu sa mère il y a quelques instants. Voilà sa femme. Il y a effectivement toute la famille qui passe, si j'ose dire. Hein. On est,
Je crois qu'il a rajouté sa femme après.
C'est bien vraisemblable. Ouais. Parce que je crois qu'il y a un état sans la femme.
Il y a un état sans la femme.
Ouais.
C'est à moins de
Pour la femme, oui, ça marche.
Il y a moins de traits pour la femme. Elle ne voyait pas.
Elle est
encore
bien plan. Elle est plus lumineuse.
Elle est au deuxième plan. Petite.
Pardon.
Ça la met au deuxième plan, ça fait une profondeur.
Oui, parce que lui est vraiment très devant.
Mis en valeur.
Alors ça, c'était la dernière diapo que je voulais vous montrer. Après, on va ramasser les copies et voir un peu dans l'ordre des choses de ce qu'il y a. Mais si on avait, pour se résumer un peu, en cette fin de première séance un peu perturbée par certaines sonneries, si vous aviez à résumer un peu en quelques mots, quelques traits, c'est le cas de le dire d'ailleurs, ce que c'est que l'art de Rembrandt graveur, vous diriez quoi? Quels sont les 4, 5, 6 éléments qui, à votre avis, vous semblerait devoir nous permettre de décrire, de caractériser l'art de Rembrandt graveur. Qu'est-ce que vous diriez ?
Maîtrise de la lumière.
Alors, effectivement, le travail sur la lumière, le goût du clair-obscur, le noir, le clair, etc. Ça, c'est certainement un élément. Quoi d'autre ?
La quotidienneté.
La simplicité.
La quotidienneté.
Le côté quotidien, effectivement, espèce de ce qu'on a appelé avec plein de guillemets le réalisme, hein, le côté, effectivement, la volonté de montrer sur du réalité, même quand il montre des choses tirées de la mythologie ou des personnages, enfin, qu'il pourrait magnifier et qu'il montre de manière très quotidienne, absolument. Donc, le clair-obscur, le côté quotidien, ouais.
La qualité du trait, quand même. Avec
pardon ?
La qualité du trait.
Ah, la qualité du trait, chose qu'on a souvent remarqué, effectivement.
Qui est très libre, en fait.
Il y a
énormément de circonvolutions.
Absolument.
Elles sont là où elles doivent
être. Oui, effectivement, cette qualité, cette liberté du trait, d'ailleurs, de tout là. Rembrandt, il s'encombre pas de. Comment dire, de conventions hein, dans la gravure, pas plus dans la peinture d'ailleurs, mais surtout pas dans la gravure. Il y a d'autres gravures, il en a fait plus de 300, hein, je ne vous ai pas tout montré, hein, mais il y en a vraiment beaucoup, et vraiment, il y en a, je pense notamment à celle qui présente la résurrection de Lazare, hein, où on voit le Christ quasiment de dos, enfin, il y a des trucs incroyables, quoi. Il est d'une liberté dans ses contradictions. Rappelez-vous la tête de sa mère qui est en dessous, donc il y a une grande liberté.
Son autoportrait quand il rigole.
L'autoportrait, on rigole. Oui, qui est quand même pas piqué des
verres. Il n'y a pas beaucoup de traits là.
Donc on est quand même surpris, effectivement, de la liberté aussi bien de composition que de traits, quoi. Hein. Donc ça, c'est certainement une chose de plus. Qu'est-ce que vous pourriez dire encore? Pardon ?
Il sait rendre les matières, les habits, les...
Oui. Alors, oui, ça, c'est peut-être effectivement important de le souligner. C'est quand même quelqu'un qui a un savoir-faire, une dextérité incroyable. Parce qu'on pourrait dire, oui, cette liberté, cette facilité, etc., fait que, bon, voilà, il va un peu vite, quoi. Et que... Mais ça n'empêche pas. On vient de le voir avec, par exemple, bon, le portrait de femme, hein, où, vous savez, le portrait d'homme assis, on a vu que les manches étaient différentes. Enfin, bref. On voit qu'il y a vraiment une capacité à un brio, si vous voulez, hein, à rendre tous les matières, etc., qui est incroyable. Donc la qualité, la rapidité du trait, sa liberté, n'empêche pas malgré tout une expertise incroyable dans le rendre des choses. C'est bien important de le dire, parce que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Là, oui, absolument. Vous auriez des choses à ajouter ?
Préconstruit quand même aussi.
Pardon ?
Préconstruit.
Oui. Alors, peut-être que... voilà, c'est ça. C'est peut-être encore au niveau de la construction. Moi, je parlerais peut-être de la même liberté. En fait, il ne s'interdit rien. Oui. On va de l'Ecce-Homo, qui est vraiment une scène de théâtre, vue de face, etc., jusqu'à des trucs comme mon foutraque, comme j'en prends encore l'idée de sa mère, qui a le menton contre la porte de la plaque, quoi. Enfin, voilà. Donc, je crois qu'il y a, dans la construction, cette liberté qu'on pointait tout à l'heure pour le trait, par exemple.
Il y a la variété des sujets aussi.
Oui, alors il y a une variété et en même temps une typologie, je dirais. Hein. Il y a les autoportraits, il y a les portraits de famille, il y a les portraits d'un ensemble de proches, il y a les scènes de l'Ancien Testament ou du Nouveau, il y a les scènes mythologiques, il y a les nus, il y a les paysages, ouais. Voilà, donc...
Les scènes de rue aussi, avec les marchands de je ne sais plus quoi.
Oui, de Morora. Alors, qui font peut-être partie des scènes pittoresques, on va dire. Oui, tout à fait. Donc, il y a à la fois une variété de sujets. Ce n'est pas quelqu'un qui fait que des paysages, par exemple. Hein. C'est donc, il y a une variété. Et en même temps, dans cette variété de sujets, il y a un catalogue de 10 types de sujets, quoi, à peu près. Hein, dont il ne sort guère, par contre. Hein. Mais en même temps, il varie sur les thèmes. Ces autoportraits, ça va de l'autoportrait le plus réaliste à celui le plus foutraque. Peut-être, moi, j'ajouterais à tout ça ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est l'autonomie par rapport à la peinture, encore une fois. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, parce qu'il y a des artistes pour qui il y a une espèce de corrélation peinture-gravure. Rembrandt, non. Hein, c'est-à-dire, c'est un art en soi, il ne fait pas en peinture ce qu'il fait en gravure et vice-versa. Donc, même si les sujets sont les mêmes, il y a une autonomie, une manière de faire. L'un n'est pas l'esquisse de l'autre. Hein. On relève les copies ? Hein. Alors là, moi j'ai mis les gravures justement par en essayant de rassembler les sujets qu'on vient de re-résumer. Hein. Il y a donc les autoportraits, hein. Celui-là qui est effectivement un autoportrait assez tôt, hein, 1630. Voilà un autre de 36 avec effectivement Saskia. Celui-là, très mis en scène, hein, effectivement, à la vénitienne. Hein. Et celui-là, plus tardif, hein, qui nous montre pris dans son quotidien. Il y a toute une série de portraits familiaux. Il a fait son père, il a fait sa mère. J'avais choisi celui-là, que je trouve. Voilà. Et puis, il y a toute une série de portraits de connaissances, dont Zix, hein, Jan Zix, qui a été bourgmestre, notamment, d'Amsterdam. Hein. Donc, et qui est un homme d'affaires, etc. Mais qui a eu aussi des responsabilités politiques. Ça, c'est Haring, qui est avocat. Il a connu le père comme le fils. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est un orfèvre, Lutma. Je pense qu'il tient justement une pièce orfèvrerie, une statuette dans la main. Les gueux, les scènes pittoresques font partie du truc. Hein. Là, on a vu ce gueux à la jambe de bois. Elle, en fait, c'est une fiancée juive. Voilà. Alors, thème qu'elle a également présenté en peinture parfois, mais on sentait bien qu'il y a quelque chose d'un peu officiel. Hein, voilà, et on comprend pourquoi elle se marque. Hein, voilà. Moins officielle, mais très vie quotidienne, c'est mendiant dans une rue. Il y a effectivement la représentation des nus. Alors, Joseph et Putiphar, et la femme de Putiphar, on en a parlé. Et puis, ça, c'est Jupiter et Antiope. Vous savez, Antiope était une nymphe, mais farouche, qui ne s'est laissée pas approcher comme ça. Et Jupiter s'est transformé en satyre pour l'approcher un peu, parce que les satyres, Jupiter, il a encore, vous voyez, il est convenable, alors que un satyre, n'est moins. Voilà. Il y a toutes les scènes figurant la vie, puis la passion du Christ. Hein. Donc la pièce au sang florin, c'est pas au sang Denis, c'est au sang florin. Voilà. Et puis là, les Chaumont, on en a parlé, faisant partie des scènes de la Passion aussi, les fameuses trois croix, hein, on a parlé de tout ça, et de ce puits de lumière étonnant. Et puis alors, les paysages, enfin, hein, en particulier ce paysage aux trois arbres, celui-là, effectivement extraordinaire. Dans son immense simplicité, dans sa banalité, c'est. Voilà, un corot, quoi. Ouais, d'Aubigny. Et puis ce merveilleux arbre qui est le sujet de son Saint-Antoine.
Saint-Jérôme.
Saint-Antoine, ce serait son nom. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, on a été un peu perturbés. Total, je suis allé un peu vite à la fin. Mais en fait, j'aurais pas dû aller vite parce qu'on termine juste dans les temps, c'est bien.